Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.
Après, les quelques rares personnes qui restent sont mises dans des camions et direction la zone. Là, ils sont dans leur caserne, qui font le cercle et délimitent la zone. Là, ils font régner la terreur. La moindre infraction se transforme en tuerie. Ils sont de partout, dans chaque coin de rue, dans chaque résidence, dans les lieux publics, écoles, mairies. Ils sont absolument de partout. Dans les magasins, ils circulent constamment dans les rues. Les gens en ont peur. Ces grands hommes, avec leur visage sans expression, au moindre bruit, cri, ils arrivent. Les jeunes qui font des graffitis et qui cherchent à voler sont tout de suite rasés au laser. Et leurs cadavres sont mis en fosse commune. Les gens de la zone comprennent. Il faut se tenir tranquille et ils rasent les murs. Même les jeunes dans les écoles n'osent plus bouger. Les robots sèment la terreur. Chaque fois qu'on les voit dans la rue, on a peur. Ils peuvent tirer à tout instant. Ils ont mis la misère au pas et effacé l'anarchie dans les zones. Les robots aussi, maintenant, sèment et mettent de l'ordre dans les villes. Les pauvres sont pourchassés la nuit par les hommes en noir et maintenant les robots les pourchassent la journée en les tuant. On tue la misère pour qu'il n'y ait plus de chômage, pour que le chômage soit à zéro. Ils n'ont plus rien, traînent de moins en moins, trouvent de moins en moins de nourriture, ne peuvent se soigner. Leurs vies sont de plus en plus précaires. Il faut qu'ils se cachent comme des rats pour ne pas être tués. C'est la terreur. Si on trouve un pauvre, on le tue. Un pauvre ne vaut pas grand-chose. Il y a quelques personnes qui cherchent à résister et à dire qu'ils ont eux aussi le droit de vivre. Ce sont des jeunes, des hommes, des femmes qui décident de faire de la résistance. Ils vivent dans les sous-sols des villes, se réunissent et disent que comme l'on est perdu, alors on ne risque rien à se battre. De temps en temps, pour montrer qu'ils hésitent, ils sortent, vont dans les rues, manifestent à coups de barres de fer. Ils cassent les vitres des magasins, des vitrines. Ils se battent avec le service d'ordre. Bien entendu, il y a beaucoup de victimes de leur côté, parce que les robots sont invulnérables. Les balles ne leur font rien. Mais les SDF se sont aperçus que le feu, l'électricité, les éliminait. Ils ont vite vu qu'un robot prenait feu, qu'un robot qui prenait une décharge, ça déréglait son programme. Il devenait comme fou. Il était comme disloqué. Ils se sont aperçus de ça en voyant un robot toucher un fil à haute tension qui se disloquait et restait inanimé. Ils se sont aperçus que c'était un robot. Jusqu'à présent, ils ne le savaient pas. Alors dès qu'ils ont compris qu'il fallait les électrocuter pour les éliminer, dès qu'ils peuvent, Ils mettent des fils à haute tension électrique à travers la rue et dès qu'ils passent, ils mettent le courant. Ça disloque, dérègle le robot qui meurt. L'électricité brouille des informations, brouille la mémoire et tue le robot qui est perdu. Et on finit de le tuer avec des lance-formes. Mais c'est très difficile. À se fournir de lance-flammes, de l'électricité. Bien sûr, il y a de l'électricité, mais il n'y a pas pour toute la nuit. Les autorités ont compris ce que faisaient les SDF. L'idée de couper le courant lorsqu'il y a des risques de bagarre ou de rafle pour éviter la destruction des robots. Les robots peuvent continuer leur terreur dans les villes et zones, terreur contre le pauvre. Les expulsions vont bon train avec eux. Les locataires, récalcitrants ou copropriétaires sont défenestrés vite fait. Malgré que ce soit Franc Blanc, Jeune Tout, Ponctois qui ont les robots et font faire tout ça, officiellement c'est une maison de surveillance privée qui a les robots et fait le travail demandé par les particuliers, industriels ou états. N'importe qui peut demander les services des robots, en tout cas officiellement, mais dans la réalité c'est autre chose. Temps passe, Gilbert apprend tout ce qui se passe en France et les ravages que font les robots. soirée, après avoir quitté Julien, Gilbert, avant d'entrer chez lui, un homme vient à lui. Il est grand, un peu fort, cheveux grisonnants, visage sympathique, mais avec des yeux profonds. Il porte un costume gris. Il vient en face de lui et lui dit « Vous savez que votre père est le plus grand criminel du monde ?»«
Pourquoi dites-vous ça ?»«
Est-ce que ces armées de robots, ces tueries qui font, c'est lui ?» Il est le créateur et le propriétaire de ces machines à tuer. Vous savez comment on expulse les gens? On les défenestre ou les brûle.
Gilbert, gêné, essaye de le quitter. L'homme le maintient bien à la manche et lui dit
« Les tueries, la nuit, c'est lui. La chasse aux pauvres, c'est lui. » Bien d'avoir un père comme le vôtre. Et l'homme le lâche.
Gilbert, rouge de honte, va rentrer chez lui. Entend derrière lui les pas de l'homme qui s'éloigne.
Chez lui.
Demain, il ira voir son père à son bureau.
Que son père emploie des machines à tuer. Gilbert est furieux, il va voir son père à son bureau au siège. Il monte à l'étage. Prend l'ascenseur. Va vers l'hôtesse. Et lui dit, j'aimerais voir mon père. Elle lui dit, je vais voir s'il peut vous recevoir. Elle fait numéro. Monsieur, il y a monsieur votre fils qui aimerait vous parler.
Bien, monsieur.
Elle approche et lui dit « Vous pouvez y aller. » Et il va vers la porte du bureau de son père. Entrez. Il entre. Ferme la porte. Son père, qu'il voit entrer, lui dit « Viens t'asseoir. » Il va s'asseoir. Du bureau. Son père lui demande « Alors, qu'est-ce que tu as à me dire ?»
Gilbert lui dit « Je sais tout, tu es un criminel. C'est toi les robots et toutes ces horreurs. »
Son père lui dit « Je sais ce que tu penses, mais oui, je suis comme toi. »
Gilbert lui dit, comment oses-tu dire que tu es comme moi, alors que c'est toi qui fais tout ça? Tu es un criminel.
Maurice lui dit, je suis malgré moi, je ne peux pas faire autrement.
Qu'est-ce que tu racontes là? Tu es le PDG ou non? C'est plus compliqué que tu ne le crois. Je suis paralysé. Je ne peux rien faire que d'accepter. Autrement, on me met en faillite. Je suis pris dans un engrenage, tu comprends? J'ai voulu jouer avec les grands, et c'est les grands qui m'ont eu. L'État, les entreprises. Et des tas de choses qui ne sont pas très recommandables. Moi, je suis prisonnier, entouré de gens qui me surveillent. Gilbert lui dit, dis tout. Il lui dit, ils nous tueraient. Je ne sais pas, mais quelque chose me dit que nous sommes entre les mains d'une espèce de mafia, de pieuvre. Nous sommes prisonniers. Et le jour où nous ne voudrons plus de nous, nous éliminerons. Porte plainte. Ils sont si puissants que je suis sûr que la police et l'État est avec eux. Gilbert lui demande, ça fait longtemps que tu le sais? Non, je me suis rendu compte avant le lancement des robots. Et quand je m'en suis rendu compte, quand on m'espionnait, j'ai ouvert les yeux, parce que j'étais entouré d'inconnus. Gilbert lui demande, que devons-nous faire? Son père lui dit, rien faire. Faire semblant de ne rien savoir pour rester en vie. Ils sont de partout et savent tout sur nous. Je suis sûr qu'ils nous ont mis des micros qui savent des choses sur notre compte, sur toi, sur moi. Faisons semblant de jouer le jeu. Toi, reste à part, fais l'indifférent ou le jeune contestataire, mais ne reste pas ici. Et mère? Mère, elle le sait. Mieux ça sera. Elle, comme cela, elle pourra réellement jouer la femme légère. Maintenant, rentre chez toi et vis normalement. Bien, père, nous reverrons chez toi, père lui dit. Chez moi aussi, je suis surveillé et écouté. Mais viens me voir. Approche. Le fils se penche et le père lui dit à l'oreille. Si tu as quelque chose à me dire, on le fera par écrit. Comme ça, sur une ardoise. Comme ça, ils ne pourront pas le savoir, ce que nous avons dit. Allez, va maintenant. Et Gilbert quitte son père.
Pour surveiller la population, on loge des robots déguisés en simples citoyens dans les villes. Ils doivent se comporter normalement et même manger et boire. Personne ne doit savoir que ce sont des robots. Ils sont là pour surveiller la résistance humaine, les projets des luttes, les révoltes, prendre les noms des leaders, etc. Ces robots ont été programmés pour être très corrects, calmes. Il faut que les gens aient l'impression qu'ils sont de braves garçons. Mais en réalité, ce sont de redoutables espions qui enregistrent tout ce qui se dit et se voit. Ils ont dans leur corps, aux oreilles, des enregistreurs qui enregistrent sur disquette tout ce qu'ils entendent, et aux yeux qui sont reliés à des vidéos disquettes. L'œil sert en même temps de caméra 24 heures sur 24. Ça marche. Une fois par semaine, ils doivent venir à un centre secret, se faire enlever les disquettes enregistrées et en remettre d'autres vierges. Un service spécial de renseignement écoute et voit tout ce qui a été enregistré. Ensuite, on dirige les robots dans les endroits où l'on pense, que l'on pense sensible, avec les gens ou les gens que l'on recherche, les endroits où on recherche des gens. On prépare aussi un laboratoire, un super robot, qui lui n'aura pas à enregistrer, puisque tout ce qu'il verra et entendra sera vu en direct dans le service. Une onde ultrason le reliera au centre. Plus de problèmes de disquette, et si on apprend une chose urgente, on pourra agir de suite, pas après plusieurs jours comme avec la disquette. Ces robots espions à disquette ou sans disquette seront vendus à la police, l'armée, les industriels. Pour espionner leurs concurrents. Il faut embaucher un robot dans l'entreprise qui se promène, enregistre tout. Ceci est un produit exclusivement occidental. Les jours passent. Maurice vit normalement et cache ses idées. Comme il leur laisse faire les choses, on ne lui dit rien. Gilbert va souvent voir son père pour le réconforter. Mais tous les deux ne parlent jamais de l'entreprise. Sa mère continue à faire ses soirées.
Quelle merveille!
Oui, il faut reconnaître une qualité aux fascistes.
Dans une de ses soirées, Gilbert voit une jeune fille, grande, mince, au visage mélancolique. Elle porte une robe bleue, du soir, toute simple. Nathalie n'est pas là et Gilbert s'ennuie un peu. La jeune fille a un côté touchant et semble s'ennuyer.
Je suis là, Maggie Egan.
Gilbert va vers elle. Il lui dit bonjour. Vous êtes seule?
Est-ce que tu veux que je te confie?
Elle lui dit oui, je ne connais personne. J'ai été invitée parce que je travaille dans l'entreprise de M. Franblanc. Sa femme a eu la gentillesse de m'inviter pour me remercier. Elle avait oublié son sac au bureau et j'ai été le lui porter. Gilbert lui demande, qu'est-ce que vous faites dans la société?
Moi je la connais bien, elle a craqué.
Elle lui dit, je suis simplement secrétaire de Mademoiselle Lapin.
J'ai pas raison.
Elle lui dit, ah, je vois Mademoiselle Lapin. Moi je suis le fils du patron, Gilbert. Elle lui dit, je suis confuse. Moi, c'est Rose Duchamp. Il lui dit, pas que vous soyez venu pour rien. Venez, je vais vous faire danser.
Elle te regarde, l'amour.
Elle hésite, puis accepte, et la fait danser.
Invite la dîner, n'hésite pas. J'ai dû dépêcher, vous devez dépêcher.
Et tout ébloui. Et la soirée se continue. Il lui parle de choses et d'autres.
Invite la dîner. Elle dira oui. Ça, je suis sûr, elle dira oui.
Easy, mon pote. Tu viens te balader sur la plage avec le chimiste.
Puis, vers les minuit, il lui dit, je dois rentrer. Après, il sera trop tard. Vous êtes venu? En voiture? Non, mais je rentrerai par mes propres moyens. Elle lui dit à 7h, il n'y a que la marche, à pied.
Quelle merveille!
Elle lui dit,
oui, il faut reconnaître une qualité aux fascistes. Ils savent apprécier en connaissance.
J'aime assez ça.
De mieux.
Il soupire et lui dit, oui, mais les rues ne sont pas sûres. Allez, je vous raccompagne.
Il y a de riches industriels.
Elle lui dit, oh non, il ne faut pas.
Viennent
ne faites pas l'enfant. J'ai ma voiture. Vous habitez Paris?
Je t'en prie.
Elle lui dit, oui, près du cimetière du Père Lachaise. C'est pas bien loin, en voiture. Venez. Et elle le suit.
Est-ce que tu veux que je te confie un petit secret?
À l'entrée,
ce paradis gros,
elle prend sa veste.
C'est que tu lui plais. Moi, je la connais bien. Elle a craqué. Elle a l'air de faire son numéro pour les autres, mais c'est pour toi qu'elle le fait.
Hop, il l'amène à sa voiture. La fait entrer. Et lui aussi rentre. Puis, il met la voiture en route. Val par la chaise, il lui demande « Vous habitez où ?» Elle lui dit « Juste en face de l'entrée. » Il va arrêter sa voiture devant un vieil immeuble sans âge de 3 étages. Et, merci, ce n'est rien, bonne nuit. Bonne nuit, vous aussi. Et elle sort de voiture. Puis, elle va ouvrir la porte du vieil immeuble. La porte est en bois marron foncé. Et Gilbert met sa voiture en route. Le long de l'allée est un couloir sombre. Des boîtes aux lettres dépareillées, sans nom, sans l'humidité, l'urine et la cuisine. Petit escalier de pierre usé avec la rampe en fer peinte en vert. Elle monte les escaliers jusqu'au 2e. Du 2e, il y a 2 portes. Elle va à celle de droite. Entre les 2 portes, il y a des petites fenêtres en hauteur qui sont des fenêtres de WC. Lorsque les gens veulent aérer leur WC, ils font apester l'allée. Elle ouvre la porte de droite. Un petit 2 pièces, petit hall d'entrée carré avec une petite penderie en bois 1960, tapisserie beige défraîchie. À droite, une porte qui donne à la cuisine. Petite pièce rectangulaire où il y a une fenêtre qui donne sur la cour. Évier en pierre, chauffe-eau sur l'évier, buffet blanc 1960. Formica, table et 2 chaises. À gauche se trouve le séjour. Grande pièce avec 2 fenêtres, une cheminée de pierre, meublé, dépareillé, barbès, un coin salon et un coin salle à manger. C'est propre mais pauvre. Une porte donne à la chambre et ce n'est pas très grand. Une fenêtre. Meubles formica marron, lit et place, armoire claire, table de nuit, une petite lampe de chevet, toute triste, en acajou, et un chapeau jute se trouve brodé dessus des fleurs. Dessus de lit est en laine beige. Il y a une porte qui donne aussi au cabinet de toilette WC, minuscule. Une fois rentrée chez elle, elle va à la cuisine. Pour se préparer, un petit quelque chose à manger. Elle va mettre son tablier blanc.
Un peu de cancine mesure pour m'étirer. Cela permettait de se faire une petite rente. Le père et la fille vivaient petitement et ne faisaient aucune folie.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La 3e époque de Violence et Crépuscule, L'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu Lionel Morzetti.